Bienvenue sur le message de la semaine de Home Lausanne. On espère que celui-ci t'encouragera et t'équipera. Pour plus d'informations sur notre église, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisehome.com.
Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous, ses anges, louez-le, vous tous, toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, oui, louez-le tous, astres lumineux. Louez-le aux cieux des cieux, vous aussi, nuages chargés d'en haut, là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours, il leur a fixé des lois immuables. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins, et vous tous, abîmes, foudre, grêle, neige, brume, vent impétueux qui exécutez ses ordres. Vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages, et tout le bétail, tout ce qui rampe ou qui vole, rois du monde et tous les peuples, les chefs et tous les dirigeants de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent l'Éternel, car lui seul est admirable. Et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés. Pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui, louez l'Éternel. C'est le psaume 148. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez déjà les préparer à ce psaume. On va le relire juste après, un peu plus tard ensemble. Mais c'est autour de ce psaume qu'on va se concentrer ce matin. Il est 5h, 5h30, 6h, 6h30, peut-être même 7h, ton réveil sonne. L'anxiété commence. Comment c'est possible que ce bruit soit aussi fort autour de moi? Tu grognes un peu, tu te retournes, tu te demandes quel jour on est en fait. Est-ce que c'est vraiment déjà le matin? Quoi? Déjà le matin? Tu éteins ton réveil ou, si on est honnête, tu snoozes 2-3 fois. Ensuite, tout va très vite. Le temps file, il file déjà. Tu te lèves, tu es un petit peu hésitant, tu scrolles sur Instagram, tu checks tes mails, tu vérifies les messages de la nuit parce que, étonnamment, on a tous des amis qui nous écrivent au milieu de la nuit. Et ça y est, tu regardes, tu es déjà en retard, mince. Il faut que j'y aille. Tu sors, tu dois filer, tu prends ton vélo, peut-être tu prends le bus, peut-être que tu es en train, en scooter ou en voiture, quoi qu'il en soit, il faut absolument filer. Tu es dans le stress, tu t'énerves déjà un peu. Mais pourquoi y a-t-il autant de monde sur la route déjà le matin? Pourquoi ce feu ne passe pas plus vite au vert? Et ça y est, tu cours, tu cours, tu cours. Midi déjà, tu dois faire vite. Tu as pris un peu plus de temps que prévu. Tu as 15 messages WhatsApp qui s'accumulent. Tu as les collègues qui t'attendent. Il faut manger vite. Tu avales un sandwich rapidement. Tu fonces déjà. Tu as promis d'ailleurs que tu allais répondre à cet autre ami. Alors il faut vite prendre ton téléphone une fois de plus. C'est déjà la fin de la pause. Tu y retournes et à quelques détails près, sans vraiment comprendre ni pourquoi ni comment, on est déjà le soir. Une activité sociale, quand même, on est censé être tous un peu sociaux. Mais pas trop. Je suis claqué. Je dois me coucher tôt. Tu scrolles de nouveau sur Instagram, de nouveau quelques emails, de nouveau quelques messages. Ce sera demain que je me coucherai tôt. Il est déjà très tard. Mon réveil va bientôt sonner. Respire un bon coup maintenant. Prenons le temps, un instant. On commence une nouvelle série ce matin, comme Jonas l'a annoncé, qui va tous nous challenger. Et cette série, elle s'intéresse au concept ou à la notion d'adoration. Et si j'ai voulu commencer avec un extrait de ma vie, parce que je sais que vous n'êtes pas comme ça, je le dirais ainsi, on ne peut pas adorer quand on court tout le temps. Même plus, on ne peut pas adorer si on court. On ne peut pas adorer si on se convainc qu'on est tous capables d'être multitâches. On ne peut pas adorer si on continue notre course effrénée. C'est important de le poser dès le départ en contraste. Si on veut vraiment aller dans cette série et laisser Dieu nous parler sur la notion d'adoration, il faut être d'accord de se calmer un peu. Un théologien japonais disait que Dieu marche toujours à la vitesse de l'amour. Et l'amour ne va jamais vite. Alors on ne pourra pas y aller si on fonce. Bienvenue à tous. Je m'appelle Yves et promis, je vais parler plus lentement. Je me réjouis de prendre ce temps avec vous. La semaine passée, on célébrait nos 6 ans. On était plus de 250 de personnes au Casino de Montbenon. Est-ce qu'il y en a qui étaient là la semaine passée? Come on, vous avez passé un bon moment? C'était vraiment chouette de vivre ce temps avec vous. On a eu une célébration le matin. Ensuite, on a eu un temps de louange et d'adoration qu'on appelle In and Out l'après-midi. Et c'était vraiment une journée qui était très, très belle. Merci d'avoir célébré avec nous. On était très émus de pouvoir le vivre ensemble. Ici, à l'église, on aime fonctionner avec des séries de messages. Et durant ces séries, on va justement creuser un thème un peu plus en profondeur. C'est pour ça qu'on a rarement juste un message et puis ensuite on passe à la suite. On a une série de messages sur un même thème. Et aujourd'hui, on commence justement le thème de l'adoration. Alors c'est génial, si tu es là pour la première fois, c'est vraiment le bon moment. Et puis, même si tu n'as pas prévu de revenir, j'espère que tu auras un peu le goût de revenir. Mais quoi qu'il en soit, je crois que ça va être bon ce qu'on va vivre et je laisse la place à Dieu pour ça. Est-ce que quelqu'un ici a dû apprendre le français? Ça veut dire que le français n'est pas ta langue maternelle. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ont dû apprendre le français? 3-4 mains qui se lèvent, ok, quelques mains qui se lèvent. Le français est connu pour être une langue assez difficile. C'est assez difficile à apprendre le français, ça fait partie de ces langues un peu complexes à apprendre. Et pourtant, le français n'est pas une langue extrêmement riche pour autant, peut-être en particulier quand on, quand on met en comparaison avec des langues anciennes. Le mot adorer en français, on l'utilise pour plein de choses. Et puis en fait, souvent quand on lit la Bible et qu'on tombe sur le mot adorer, il y a plein d'autres mots derrière. En français, le mot adorer vient du latin adorare, qui lui-même vient du mot latin orare, qui signifie prier. Et du coup, au départ, adorer, c'est rendre des honneurs, prier avec ferveur ou vénérer Dieu, une divinité ou un roi. Ça, c'est l'étymologie du mot. Puis avec le temps, c'est devenu aussi aimer passionnément quelqu'un ou quelque chose. Je vous disais, le français, ce n'est pas une langue très riche parce que, par exemple, on adore Dieu, mais on adore aussi la couleur bleue. On adore aussi une bonne fondue. On adore aussi nos enfants. On adore certaines fois des amis. On adore des stars, même quand on ne les connaît pas vraiment. Donc on est comme, qu'est-ce que ça veut dire adorer, en fait? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? À l'église, quand on pense adorer, on pense souvent à la dévotion, à la prière, mais surtout, si on est honnête, à la louange. Quand on pense adorer dans le contexte de l'église, on pense souvent un musicien, des chanteurs et nous qui louons. Mais adorer, ça a été dit et on va creuser ça, c'est beaucoup plus que ça. Puis on va essayer de construire avec vous, qu'est-ce que c'est qu'adorer? Comment est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on doit adorer finalement? Dans la Bible, tant en hébreu qu'en grec, il y a énormément de mots pour exprimer l'idée d'adoration. Puis ces mots ont tous des sens qui sont le sens principal assez le même, mais ensuite des nuances ici ou là. Beaucoup de ces mots indiquent, et ça c'est intéressant, une action physique. Par exemple, se courber, se prosterner, s'incliner, lever les bras. Il y a souvent une notion physique. Mais pas seulement. Si on étudie l'adoration dans la Bible, il y a 3 dimensions qui ressortent. Puis j'aimerais vous les dire en entrée. Tout d'abord, on adore avec le cœur et les émotions. On est émerveillé, touché dans nos entrailles, au plus profond de nous, poussé au travers de ce qu'on ressent à adorer Dieu. Donc on adore au niveau de nos émotions. La deuxième dimension, c'est qu'on adore avec notre volonté. Dans la Bible, l'adoration, c'est un choix conscient d'adorer. C'est un acte libre qui est dirigé vers quelqu'un. En général, on encourage à le diriger vers Dieu. Et on voit des gens qui choisissent d'adorer ou qui disent à leur corps d'adorer. Dans les psaumes, qui est un livre où il y a beaucoup, on a souvent David qui dit « Bénis Dieu, ô mon âme ». Et quand il le dit, on ne comprend pas toujours, mais en fait, il est en train de donner un ordre. « Je choisis que tu dois bénir Dieu maintenant, ô mon âme ». Et il est comme en train de se donner un ordre, c'est un choix, c'est quelque chose qui est en lien donc avec nos émotions, mais c'est aussi quelque chose qui est en lien avec notre volonté. Et finalement, dans la Bible, l'adoration apparaît aussi comme une action logique et réfléchie. L'adoration comme une action logique et réfléchie, parce que finalement, quand on réalise qui est Dieu, quand on réalise ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire, l'adoration est alors perçue comme une réponse logique. Il n'y a pas d'autre choix, en fait, que d'adorer Dieu. Si Dieu est bel et bien qui il dit, puis s'il fait bel et bien ce qu'il dit, puis si je peux constater qu'il... En fait, la réponse logique, c'est l'adoration. L'adoration biblique, c'est donc, c'est vrai, prier avec ferveur, vénérer quelqu'un, régulièrement c'est Dieu, et cette adoration est à la fois une réaction émotionnelle, une décision intentionnelle et une action pertinente et logique face à Dieu. Alors si vous vouliez un début de définition de l'adoration selon la Bible, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'adoration ? L'adoration, c'est une réaction émotionnelle, une décision intentionnelle et une action pertinente et logique face à Dieu. Ça, c'est l'adoration. Puis je donne toute la gloire à Dieu. Alors vous le comprenez bien, adorer, c'est pas aimer une chanson de louange. Adorer, ouais, j'adore ce chant. Adorer, c'est pas non plus répéter régulièrement le même chant. Par exemple, Alléluia. Adorer, c'est pas non plus être ému et pleurer pendant un chant. Adorer, c'est incliner l'entier de notre être, compréhension, désir et ressenti vers Dieu en adoration. C'est s'incliner vers Dieu, lui laisser tout ce qu'on a, parce qu'on ne saurait quoi faire d'autre. J'aime bien le dire ainsi, l'adoration devrait toujours se vivre en trois dimensions. Ce type d'adoration, les amis, il faut qu'on réalise aussi que c'est une adoration qui va nous transformer. Parce que vous le savez sans doute, on devient toujours un peu plus comme les choses avec lesquelles on passe du temps. Vous avez tous rencontré quelqu'un qui s'est marié, je suppose. C'est étonnamment de voir à quel point cette personne qui se marie gentiment est un peu affectée par son mariage. Les goûts, les couleurs, les références. Moi, mon grand frère, quand il s'est marié, une des choses qui m'a choqué, c'est qu'il a commencé à utiliser des expressions que je n'avais jamais entendues dans sa bouche auparavant. C'est pas grave, mais je me disais, je te connais depuis que je suis né, je t'ai jamais entendu dire ça. Mais subitement, parce qu'il traînait, parce qu'il vivait, parce qu'il faisait la vie avec quelqu'un, il commençait à être un petit peu transformé par cette personne. De la même façon, l'adoration va nous transformer. Parce que quand on passe ce temps avec Dieu, quand on incline nos cœurs, quand on se penche sur lui, en fait, lui est à l'œuvre aussi en nous. Écoutez ce que James Smith, qui est philosophe et théologien, dit. L'adoration crée un espace dans lequel Dieu peut recalibrer nos cœurs, former ou plutôt reformer nos désirs et nos amours. L'adoration, ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons, c'est un espace dans lequel Dieu lui-même est à l'action en nous. En cela, l'adoration est au cœur de la marche de disciples. Marcher en disciple, ça nécessite qu'on adore. On ne peut pas faire autrement parce que dans l'adoration, on s'approche de Dieu et dans l'adoration, on laisse Dieu nous travailler, nous transformer, nous former, nous reformer. On va relire maintenant le texte, puis je vous invite à le prendre avec moi si vous avez vos Bibles. C'est le psaume 148. Je vais le lire comme avant, puis il va s'afficher aussi pour ceux qui n'auraient pas de Bible. Si vous n'avez pas de Bible, deux informations pour vous extrêmement importantes. On aime tellement ce livre et on est tellement convaincu qu'il change les vies que venez nous voir à la fin qu'on vous en offre un. On veut vous offrir une Bible pour que vous puissiez la voir. Puis la deuxième des informations, c'est qu'il existe plein d'applications où vous pouvez avoir aussi la Bible gratuitement. Alors c'est moins cool parce que c'est digital, mais c'est aussi une bonne alternative si jamais. Psaume 148, on lit ensemble. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les hauteurs. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Oui, louez-le tous, astres lumineux. Louez-le, ô cieux des cieux. Vous aussi, nuages chargés d'eau là-haut dans le ciel. Que tous ces êtres louent l'Éternel, car il a donné ses ordres et ils ont été créés. Il les a tous établis pour toujours. Il leur a fixé des lois immuables. Louez l'Éternel, vous qui êtes sur la terre, vous, monstres marins, et vous tous, abîmes, foudre, grêle, neige, brume, vent impétueux qui exécutez ses ordres, vous, montagnes et collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux sauvages et tout le bétail, tout ce qui rampe ou qui vole, rois du monde et tous les peuples, les chefs et tous les dirigeants de la terre, jeunes gens et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent l'Éternel, car lui seul est admirable, et sa majesté domine la terre et le ciel. Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui le sont attachés, pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui. Louez l'Éternel. Vous avez vu le nombre de fois qu'il est dit « louez l'Éternel » ? Pas mal de fois. Et ce texte est fascinant, il est extrêmement riche. Si on prend le temps de le décomposer, puis on va vraiment un peu l'étudier ensemble ce matin en détail. Mais il y a beaucoup de choses qui ressortent, notamment sur la notion de l'adoration. Ce texte commence et se termine par la même phrase en hébreu. C'était un texte au départ en langue originale hébreuse. Il y a un seul mot, puis en français, ça a été traduit par une phrase. C'est « Louer l'Éternel » en français. Et en hébreu, c'est « Alléluia ». Il ouvre et il finit, il ferme sur « Alléluia ». Alléluia, au départ, ce n'est pas tellement nous qui louons Dieu. Je ne sais pas si vous saviez ça. Alléluia, ce n'est pas nous qui disons seulement Alléluia. Au départ, Alléluia, c'est plutôt une interpellation. C'est plutôt, tu devrais louer Dieu, en fait. On dit à quelqu'un Alléluia, puis l'autre nous répond en général Alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit et qu'on prononce seul pour soi-même. Et ce psaume, en fait, s'ouvre et se ferme sur cette invitation. Pour la langue originale, les premiers qui lisaient ce texte, ce qu'ils comprenaient, c'est qu'au début de ce psaume, on nous disait « Hey, vous devriez louer Dieu ». Puis à la fin du psaume, on disait « Pour toutes ces raisons, vous devriez louer Dieu ». Donc c'est comme cette invitation à adorer Dieu, à louer Dieu, se trouve en ouverture et en fermeture. Et si vous découpez le psaume, si vous l'étudiez un petit peu plus, il y a une interpellation extrêmement intéressante. Il y a comme deux grands temps dans ce psaume. Il y a tout d'abord le haut des cieux, c'est dès le verset 1, « Louez-le, le haut des cieux ». Et puis ensuite, à partir du verset 7, on nous dit « Louez-le, vous tous qui êtes sur la terre ». Et en fait, là, ça se perd. Il y a plein de choses qui se perdent dans les traductions. Mais il y a comme une intelligence, un brio de l'auteur de ce psaume. Parce que quand il dit « les cieux et la terre doivent louer Dieu », en fait, c'est un écho à la création du monde. Parce que si vous allez lire la Genèse, qui est le récit de la création du monde, on nous dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Exactement dans cet ordre-là. Et là, le psalmiste nous dit « louez-le, vous les cieux ». Il détaille un petit peu, puis après, « Louez-le, vous, sur la terre !» Et en fait, il fait écho à la création, au récit de la création. Les cieux et la terre doivent louer Dieu. Et en fait, ce psaume, c'est une invitation. Littéralement, si vous lisez ce psaume, et en particulier pour les auteurs au départ, je ne sais pas ce que vous avez pensé ou compris quand je l'ai lu, mais pour les gens, les premiers, les contemporains de ce psaume, quand ils le lisaient, ce qu'ils comprenaient, c'était une invitation pour tout le cosmos et tout ce qui habite la terre à adorer Dieu. Une invitation pour tout à adorer Dieu. Et alors on commence par les cieux, et on commence par ce qui habite les cieux. On y lit les anges, les armées célestes, le soleil, la lune et les astres. Mais rien que là, on pourrait s'arrêter. C'est bizarre, c'est quoi les armées célestes? En fonction des traductions, on se dit, mais est-ce que c'est les astres, un astre? Est-ce que c'est les lunes, une lune? Mais laissons un peu ces questions, parce que c'est tout aussi flippant quand on arrive sur la terre. Quand on arrive sur la terre, on pourrait penser à, oui, nous les hommes, on doit louer Dieu, mais si vous regardez, c'est les derniers les hommes. Et on commence par des choses vraiment surprenantes. Monstres. Monstres marins, abîmes, foudre, brume. Ok, sympa bonnard. Pas sûr que c'est la première des choses auxquelles je pensais quand je pensais à l'adoration, en fait. C'est, à quoi tu penses dans l'adoration? Les monstres marins qui adorent Dieu. All right, intéressant. Et je vais laisser là, je ne vais pas vous prendre du temps puis vous perdre dans des études de textes trop longues. C'est un peu flippant, mais il y a vraiment du sens à tout ça. J'aimerais juste souligner deux constats qui se dégagent quand on comprend cette grande structure du texte. Il y a d'autres choses, mais deux constats importants. Et puis je laisse le verset 14 qui est comme la conclusion, on l'apprendra après. En fait, il y a une invitation assez sérieuse qui est adressée à l'ensemble de la création. Et le psalmiste dit, l'adoration, c'est pas seulement moi. C'est pas seulement moi, le psalmiste, qui suis content. Puis les psaumes, au passage, c'est un recueil de poésie, de chants. Mais il n'est pas juste en train de dire c'est moi et puis ma petite personne ou moi avec mes instruments qui adore. Il dit l'invitation à adorer, c'est pour tout le monde, en fait. Notez que l'ensemble de la création, c'est aussi les anges, les armées célestes, le soleil, la lune, les astres, tout ce qu'il y a dans le ciel. C'est aussi les monstres, les abîmes, la foudre, la brume, les arbres, les collines. Et arrivent seulement à la fin les humains. Puis même parmi les humains, c'est intéressant. Qui doit adorer Dieu? Roi, les chefs, les jeunes, les moins jeunes, les jeunes gars, les jeunes filles, et puis tout le monde en fait. Ceux qui vont bien, ceux qui vont moins bien, ceux qui ont des raisons, ceux qui n'ont pas de raisons. Tout le monde doit adorer Dieu. Et il y a vraiment cette invitation qui est extrêmement forte et qui est très très marquée. Pour bien comprendre cette idée que l'entier du cosmos et l'entier de ce qui compose la Terre est invité à adorer, il faut réaliser que tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Je répète cette phrase, elle est importante. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Et ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce clin d'œil au récit de la création. Il n'est pas juste en train de se dire, moi j'ai une bonne idée. Ce serait bien si tout adorait Dieu. Il est en train de nous rappeler, rappelez-vous dans quel contexte on évolue. On évolue dans un contexte qui a été créé. Et ce créateur sait exactement ce qu'il faisait, pourquoi il l'a fait. Et il faut que tout adore Dieu. Il faut que tout adore Dieu. Donc il y a cette invitation pour tout, mais il y a une deuxième chose. Donc le constat, c'est que tout est invité, l'ensemble de la création, mais il y a cette deuxième chose, c'est une invitation qui est expliquée, qui est raisonnable. Dans le psaume, il nous dit pourquoi on devrait adorer Dieu. Il ne dit pas juste « faites-le, c'est mon idée », mais il nous donne beaucoup de raisons pour adorer Dieu. Et j'en ai identifié 7, mais encore une fois, pour une question de temps, je vais en parler que de 2. Et là, tous ceux qui me connaissent un peu disent « merci Yves, ça fait plaisir, on va respecter le timing ce matin ». 2 raisons de pourquoi tous sont invités à adorer Dieu. La première de ces raisons, c'est que Dieu est le Créateur. Dieu est le Créateur. Puis je sais, beaucoup vous dites, mais oui, ben oui, c'est bateau. Mais en fait, il y a beaucoup d'incidences avec cette réalité. Il y a beaucoup de choses qu'on oublie dans le temps. Je dirais que, allez, 99% des gens qui se revendiquent chrétiens sont d'accord et en paix avec cette idée que Dieu est le Créateur, intellectuellement, ou peut-être théologiquement. Mais ils ne vivent que très peu les implications que ça signifie qu'il soit le Créateur. Je vais vous donner une image que je donne souvent, peut-être vous m'avez déjà entendu la donner, même ici. Il y en a qui ont construit des meubles Ikea déjà? Ok. Tous ceux qui ont construit un meuble Ikea savent qu'on a meilleur temps de faire confiance au Créateur. Parce que ceux qui s'aventurent à construire un meuble Ikea, aussi simple soit-il, sans le mode d'emploi Ikea, tu sais, ils abandonnent. Ils s'énervent, c'est des disputes dans le couple. Mon beau-père, il est toujours sûr qu'il est capable. Et puis à la fin, il est en train de dire quelques mots qui ne sont pas très dignes en suisse-allemand et taper avec un marteau sur le meuble Ikea. Il a cassé des meubles comme ça. Parce que quand tu te passes du Créateur, ça devient difficile en fait. Puis je reviens sur l'image des chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont conscients, oui, sans doute, oui, c'est lui le Créateur. Ah, je sais, j'ai lu la Bible, en tout cas la Genèse. En tout cas, le verset 1 de la Genèse, chapitre 1. Je sais bien, c'est Dieu qui a créé les choses. Mais est-ce que tu comprends que ça a des implications s'il est Créateur? Tu ne peux pas vivre ta vie comme toi tu l'entends. Tu ne peux pas faire les choses comme toi tu l'entends. Tu ne peux pas définir tout ce que tu veux définir comme toi tu l'entends. C'était d'ailleurs le piège au passage, c'est Genèse 3, je sais, beaucoup ne sont pas arrivés jusque-là. Mais dans Genèse 3, il s'est passé quelque chose qui s'appelle la chute. Et en fait, c'est l'homme qui s'est rebellé. Et l'homme qui a dit, c'est moi qui vais décider ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui vais savoir. Et la tentation à l'homme était extrêmement précise. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Dieu, c'est qui? C'est le Créateur. Vous serez comme des créateurs. Donc souvent, on sait qu'il est le Créateur, mais souvent, on vit comme si nous étions les créateurs. Souvent, on sait, puis on dit, oui, il est Créateur. Mais finalement, quand on regarde nos vies, on vit comme si nous, on était les dieux. Comme si nous, on pouvait choisir. Comme si nous, on avait un impact sur la création, comme si c'était notre création à nous. Donc c'est important qu'on insiste là-dessus. Ce psaume le dit avec merveille et avec brio et avec tact et avec poésie. Mais non-stop, ce psaume nous rappelle quasiment à chaque verset, c'est lui qui a tout créé. C'est lui qui a tout placé. Et c'est pour ça qu'il y a ces choses bizarres. Pensez-y un instant, pourquoi les monstres marins, pourquoi la foudre, la brume ? Mais aussi le soleil, la lune et les astres. Et en fait, si vous étudiez la poésie de la création dans la Genèse 1, en fait, vous allez voir qu'il nous est dit, au commencement, il y avait, comme tout était un peu une masse informe de l'eau, on ne savait pas trop, puis Dieu a créé des séparations. Il a créé des limites. Il a dit, maintenant, l'eau ne va pas aller plus loin que ça, puis il y avait des choses dans cette eau. Puis il y avait des choses qui étaient plutôt de l'ordre des ténèbres, plutôt de l'ordre des monstres. Puis en fait, l'auteur de cette poésie-là nous dit « Dieu a donné un cadre pour ces choses, puis ces choses restent dans leur cadre. Et parce qu'elles restent dans leur cadre, elles se soumettent au Créateur. » Et c'est pour ça que ce psalmiste peut nous dire calmement « Même les monstres marins adorent Dieu. » Il dit « Même parce qu'elles savent le cadre que Dieu a donné. » Et en respectant ce cadre-là, elles sont dans un acte, dans une posture d'adoration. De la même manière, il parle des astres. puis il regarde les astres. Moi, je l'imagine regarder les astres et puis voir qu'il y a une logique dans ces astres. Et puis, même s'il n'était pas capable d'expliquer de façon scientifique comme nous on le fait aujourd'hui les choses, il dit, il y a comme une logique dans ces choses-là. Puis cette logique, elle a été mise en place par un esprit brillant, par Dieu lui-même. Et en fait, ces astres restent dans cette logique-là. Et parce qu'elles se soumettent au Créateur, elles adorent, ils adorent Dieu. La création adore Dieu. Il y a un ordre qui est là et la création se soumet et respecte cet ordre. En mettant en avant la notion de création, des choses qui sont effrayantes, surprenantes, des choses qui nous concernent des fois un peu moins, d'un coup on peut les voir en disant, mais attendez, ça c'est une création qui se soumet au Créateur. Et dans ce sens-là, c'est une création qui adore le Créateur. On pourrait le dire ainsi, fondamentalement, juste à la lumière de cette réalité, adorer Dieu, c'est fonctionner comme il le veut lui et comme il l'a prévu lui. Je le répète, adorer Dieu, c'est fonctionner comme il le veut lui et comme il l'a prévu lui. Le fait que les étoiles suivent leur cours dans le ciel, c'est un acte d'adoration. Dans sa bonté, Dieu a séparé les choses dans le récit de la Genèse. Et le psalmiste nous dit, à leur façon, ces choses adorent Dieu parce qu'elles se soumettent à ce que Dieu a établi. Et du coup, indirectement, ça devrait nous poser une question à nous. Est-ce que moi j'adore Dieu juste parce qu'il est Dieu et parce qu'il m'a créé? Est-ce que je suis d'accord de simplement l'adorer? Non pas pour ce qu'il fait, non pas parce qu'il répond à mes prières, non pas parce qu'il me donne bonus des choses que je n'avais même pas demandé mais qui sont pas mal. Mais est-ce que je l'adore simplement parce qu'il est le Créateur? Il est digne d'adoration juste pour ça? Il n'y aurait pas le souffle de vie sans lui? Et du coup, je vais l'adorer simplement pour ça. Parce que Dieu sait. Il sait où il t'a placé, il sait quand il t'a placé. Souvent, on peut voir quand même que les gens, moi-même le premier, on adore Dieu s'il répond à nos prières. Seigneur, j'ai des examens vraiment difficiles. Je suis tellement content d'être sorti de la période des examens. Je pense à tous les étudiants au passage. Seigneur, j'ai des examens tellement difficiles. J'ai bénéficier de la liberté académique, peut-être un peu trop. Je ne suis plus vraiment sûr de bien savoir de quoi il en retourne. Mes amis, collègues n'ont pas été d'accord de me passer leurs notes. Aide-moi pour l'examen à venir, ô Dieu. Prends pitié de moi. Et promis, j'irai à l'église ce dimanche. Et finalement, tu reçois les résultats, tu vas sur Moodle ou je ne sais quelle plateforme, tu vois tes résultats. Alléluia! Dieu est bon, Dieu est bon. Et tu arrives le dimanche à l'église, Dieu est bon mon frère, Dieu est bon ma sœur. Alléluia, j'ai passé mes examens. Et dans la louange, Alléluia, je t'aime Seigneur. Mais l'attitude ne serait pas la même hein, si tu n'avais pas réussi l'examen. Bon, si c'est comme ça, je ne sais pas si vraiment je vais venir à l'église. Hein. Ça devrait être donnant-donnant, j'ai l'impression quand même. Souvent, on adore Dieu seulement si Dieu se soumet à nous, alors que l'adoration devrait être un acte de soumission à lui. Et on devrait l'adorer simplement parce qu'il est Dieu, le Créateur de toutes choses. L'adoration du Créateur, c'est justement un acte de confiance et de soumission. Je t'adore, Dieu, parce que tu m'as fait. Et je veux te faire confiance. Tout comme les étoiles suivent leur cours, confiante en toi, aide-moi à vivre ma vie dans la confiance que tu sais, là où tu m'as placé, pourquoi et comment. On pourrait tous développer une prière très simple qui dit que le cours de ma vie t'adore, Seigneur. Adorer Dieu parce qu'il est le Créateur, fidèle et digne de confiance. C'était mon premier point. Et mon deuxième point, c'est une phrase surprenante, il donnera un libérateur. Adorer Dieu parce qu'il donnera un libérateur. Et là, je vais m'arrêter avec vous un tout petit peu plus sur le verset 14. Le verset 14 nous dit, dans la version Bible du Semeur que j'ai lue, « Il a préparé un puissant libérateur pour son peuple. C'est un sujet de louange pour tous ceux qui lui sont attachés, pour tous les Israélites, peuple qui vit près de lui. Il a préparé un libérateur. » Si vous lisez en hébreu, ou si vous lisez dans certaines traductions françaises, même plus anciennes, je crois la Martin notamment fait ça, en fait, c'est l'image d'une corne. C'est vraiment bizarre. Si vous lisez et que vous n'avez pas de contexte, il a placé une corne. All right. Gloire à Dieu, I guess. Et cette corne, en fait, c'est une référence à l'idée de victoire, à l'idée de libération. C'est associé à l'image du taureau qui lève ses cornes et qui, en faisant ça, indique la victoire. Mais on peut se demander légitimement, pourquoi ? Pourquoi ? Pour quelle victoire ? Si on est un tout petit peu sincère, on regarde autour de nous, j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un constat de victoire. On peut prendre quelques sujets comme ça, d'actualité. Le taux de suicide, pas tellement victorieux en ce moment. L'anxiété, la dépression, pas tellement victorieux en ce moment. Les relations internationales, pas tellement victorieux en ce moment. Les atrocités qui se passent au sein du christianisme, pas tellement victorieux en ce moment. On pourrait vraiment se demander, mais de quelle victoire on parle ? Quelle victoire Dieu m'a donnée ? À un niveau beaucoup plus simple, beaucoup plus personnel, j'ai toujours des sujets de prière. Il y a toujours des pauvres autour de nous, il y a toujours des malades. On l'a chanté avant, il est le Dieu qui guérit, mais pourquoi alors il ne guérit pas ? Quelle victoire en fait ? On a tous des drames personnels, quelle victoire ? Pour bien saisir cette idée de victoire, c'est très très important de se rappeler en fait qu'on est dans le psaume 148. Et là je dis ça, ça éclaire toute vos lanternes, n'est-ce pas ? Ah ben oui, merci Yves. Ça fait quoi qu'on soit dans le psaume 148 ? Il y a 150 psaumes dans la Bible. C'est le livre le plus long, le plus large. C'est celui où, si vous avez une Bible physique, vous ouvrez très souvent, vous tombez sur un psaume. Et il y a 150 psaumes. Et sur ces 150 psaumes, il y a un grand récit qui nous est raconté. On n'en a pas toujours conscience, mais en fait, il y a un grand récit qui nous est raconté. Et un récit qui nous est raconté qui s'inscrit dans ce qu'on appelle l'attente messianique. Et en fait, ces psaumes sont en train, les uns après les autres, dans la grande histoire. Ça, si vous voulez le faire, il faudrait essayer de lire les psaumes en un jour, les 150, dans la même journée. Là, d'un coup, quand vous lisez à cette vitesse-là, il y a des grands, ce qu'on appelle les méta-récits qui commencent à être beaucoup plus clairs. Les détails disparaissent, puis vous n'avez plus que la grande image. Et si vous lisez les psaumes en un jour, vous allez voir qu'en fait, il y a des promesses au début des psaumes. Il y a des promesses que Dieu va pas abandonner son peuple, que Dieu va être là, qu'on peut l'adorer, qu'on peut lui faire confiance. Puis ensuite s'ensuit toute une série de lamentations, de psaumes assez difficiles, d'un roi qu'on espérait, il y avait de l'attente sur ce roi, c'est le roi David pour ceux qui sont familiers. Et puis il y avait de l'attente sur ce roi, et puis en fait ce roi n'arrive pas tellement, puis on est un petit peu dans les méandres de sa propre vie, dans ses doutes à lui, dans ses questions à lui, puis on voit bien que ce roi n'est pas le roi qu'on attendait au tout début des psaumes. Puis c'est comme si ça ne marche pas. Puis on arrive dans les 5 derniers psaumes, psaumes 145, 46, 47, 48 et jusqu'à 50, les 5 derniers psaumes. J'ai plus de peine avec les chiffres qu'avec les mots. Et en fait, le psaume 148, il est exactement au milieu de ça. Et le psaume 148, il est en train de nous dire, Dieu est toujours fidèle à ce qu'il a promis. Ce qu'on vous disait depuis le départ, c'est toujours vrai en fait. Vous pouvez vous attendre à lui. Puis vous pouvez vous attendre à lui de la même façon que les astres, la lune, le ciel savent exactement comment fonctionner parce qu'elles font confiance. Vous aussi, vous pouvez faire confiance. Il va bel et bien donner un libérateur. Et en fait, c'est une dimension, là je m'excuse pour ceux qui sont moins familiers ou moins curieux de ces choses, friands de ces choses, mais c'est la dimension prophétique des psaumes. C'est-à-dire que les psaumes en eux-mêmes, il y a plein de choses qui se passent dans les psaumes, mais il y a une des choses qui se passe, c'est qu'ils sont en train de nous dire, il y a quelque chose qui arrive. Et vous pouvez rester fidèle. Parce que Dieu, lui, reste fidèle. Et on va dans les méandres de la vie, notamment du roi David, pour dire, mais est-ce que vraiment on peut faire confiance à Dieu ? C'est fait dans ce but-là, est-ce que vraiment je peux m'attendre ? Mais alors qu'on arrive à la fin, alors qu'on est au psaume 148, les auteurs des psaumes nous disent, là, il faut vraiment que vous sachiez, oui, Dieu ne vous oubliera pas. Dieu est fidèle. Il va bel et bien envoyer la corne. Et puis, dans la vie de Jésus, puis en particulier après, si vous lisez Paul dans le Nouveau Testament, vous verrez qu'il fait souvent référence en disant « Mais c'est ce qu'on nous disait, les amis. C'est ce qu'on nous disait. C'est ce qu'on nous disait. C'est ce qu'on nous disait. » À la conclusion de ce livre des psaumes, on a une invitation pour toute la création à louer Dieu parce qu'il est le Créateur, mais aussi parce que c'est lui qui va nous libérer. Et on ne le loue pas parce qu'on a la victoire, mais on le loue parce qu'on est confiant qu'on aura la victoire en lui. Et ça, les amis, ça demande d'avoir une posture un tout petit peu qui n'est pas égocentrique, juste ma vie et ma réalité maintenant, mais une posture qui est christocentrique, Christ au centre. Et si Christ est au centre, je peux être confiant. On adore le Créateur pour ce qu'il a fait, c'est sûr, on adore le Créateur parce qu'il est Créateur, mais on adore aussi le Créateur pour ce qu'il va faire. Et je peux mettre ma confiance C'est pour ça qu'il y a des phrases comme « Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Jérusalem. » Et vous pouvez faire confiance, les amis, même si vous ne le voyez pas. Et j'ai envie de te dire, peut-être que dans ta vie, en ce moment même, tu attends quelque chose de la part de Dieu. Peut-être qu'en ce moment même, tu serais plutôt comme dans un psaume de lamentation, toi. Vous savez, une des phrases des psaumes de lamentation, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et peut-être qu'en ce moment même, c'est plutôt ça votre réalité. Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi j'en suis là? Pourquoi il n'y a pas encore de solution? Et puis souvent, on est complexe, nous, hein, comme individus. Il y a des raisons pour lesquelles on pourrait se réjouir, puis il y a des raisons pour lesquelles on est là. Seigneur, j'attends encore que tu agisses à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a des sujets où je suis là. Merci Seigneur, puis il y a des sujets où je suis là. M'as-tu oublié, Seigneur? Et dans le même temps de prière, je peux faire ça. Mais ce psaume, il nous rappelle qu'il va envoyer le libérateur. Tu peux adorer. Et puis il nous demande alors de nous positionner, non pas de façon égocentrique, mais christocentrique. Je me concentre sur le fait qu'il a libéré son peuple. Il l'aime. C'est pour ça qu'on peut dire, Dieu est bon. Et là, tu dis, il est bon, parce que tu as été un peu trop souvent dans les églises. Mais quand tu vas dans les milieux de persécution, puis que les gens disent, Dieu est bon, puis que tu entends les gens dire, il est vraiment bon. Tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui te fait dire que Dieu est bon? Regarde ta vie. Mais ils disent justement, je regarde à lui, je ne regarde pas à ma vie. Et si je regarde à lui, je suis dans la confiance. Il est bon. Alors si tu t'attends à quelque chose de la part de Dieu, adore-le ce matin. Loue-le ce matin. Place ta confiance en lui. Quoi faire quand Dieu ne répond pas? Je l'adore quand même. Je l'adore avec cette réalisation qu'il est fidèle, il est le créateur et il est celui qui ne m'abandonne pas. Adore-le quand tu comprends, mais adore-le aussi quand tu n'es pas sûr et que tu ne comprends pas. Adore-le non pas pour qu'il intervienne, mais adore-le rempli de confiance. Je vais inviter les musiciens à revenir. J'ai été tellement, en étudiant ce psaume, c'est une semaine difficile, si je peux être honnête avec vous. C'est bizarre de poser cette question, je suis toujours honnête avec vous. Mais j'ai eu une semaine assez difficile à plusieurs égards. Et puis... En préparant, je ne fais pas toujours ça, mais en préparant ce message, j'avais besoin de penser large. Alors sur le mur du tableau, du bureau, j'ai commencé à écrire un peu la structure de mon message, pourquoi j'ai commencé à les attributs, qu'est-ce qu'on voit de Dieu ici, pourquoi est-ce qu'on l'adore. Et puis c'était comme un rappel constant, c'est littéralement devant ma place de travail. À chaque fois que je levais les yeux, j'étais là, ah ouais, adore-le encore. Il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur, hein, moi. De décider de l'adorer, même au milieu de la semaine qui n'était pas facile. Puis est-ce qu'aujourd'hui j'ai solutionné la semaine? Non. Mais est-ce que ça change qui est Dieu? Non plus. Alors est-ce que je peux continuer à l'adorer? Certainement. Certainement que je peux continuer à l'adorer. Et je place mon espoir en lui. Ce psaume, c'est une invitation à l'adoration. C'est d'ailleurs le titre de mon message, hein. Je ne l'ai pas dit jusqu'ici, mais mon message c'est l'adoration, une invitation pour tous. Et jusqu'ici, on a essayé de comprendre ce que c'était que l'adoration. On a vu un tout petit peu qui devrait adorer Dieu et pourquoi. Et j'espère qu'on comprend mieux et qu'on réalise davantage notre responsabilité personnelle dans l'adoration. On a une tendance un peu malheureuse à réduire l'adoration à 20 minutes le dimanche, alors que c'est bien plus. C'est une vie en entier. Et moi, je me suis posé plusieurs fois la question cette semaine, si la brume, le feu et l'eau, parce que les monstres marins, c'est un peu flippant, hein, j'avoue. J'ai étudié, mais j'ai laissé ça de côté. Mais je me suis dit plusieurs fois, si la brume, le feu et l'eau peuvent l'adorer, quelles sont mes excuses à moi pour ne pas l'adorer? Quelle est sincèrement mon excuse à moi, intellectuellement, si toutes ces choses l'adorent? Et on peut aller un cran plus loin encore, en réalisant que l'adoration, ce n'est pas juste une bonne idée, mais qu'elle est nécessaire. Dans une certaine mesure, nous avons été faits pour ça. Rappelez-vous, ciel et terre, adorez-le. Vous avez été créés, c'est le Créateur, adorez-le. Et j'essayais juste de mettre un tout petit peu en relief le fait que l'adoration, c'est pour Dieu, mais ça nous transforme, nous. Et du coup, il est vital de se questionner à qui est-ce que s'adresse mon adoration. Puis je termine avec cette réflexion-là. On a été créés pour adorer. La création. Tout ce qui a été fait pour adorer Dieu. En d'autres termes, c'est ton défaut, c'est ton mode par défaut, l'adoration. On va tous adorer. Du coup, La seule question qui reste, c'est vers quoi est-ce que tu vas adresser ton adoration? Tim Keller, qui est théologien, pasteur, le dit de la chose suivante, de la façon suivante, pardon. Nous adorons tous quelque chose. Le seul choix que nous ayons, c'est de choisir qui nous allons adorer. Parce qu'on a été créé pour ça, on vit pour ça en fait. On vit pour adorer, on vit pour donner la gloire, pour refléter la gloire, pour rayonner la gloire vers quelque chose. Est-ce que tu vas adorer ton travail, ton partenaire de vie, ton compte en banque? On adore tous quelque chose. J'arrive à la conclusion et on va prendre le temps de réfléchir un peu ensemble, mais pardon. Là, on a réfléchi ensemble. Maintenant, on va réfléchir chacun pour soi. Je parlais au début du stress, de la réalité du quotidien. Peut-être que certains vous êtes arrivés avec du stress ici. Puis j'espère que gentiment, il est en train de redescendre. Puis j'aimerais vous inviter à vous arrêter un tout petit moment, à ralentir, à vous émerveiller devant ce Créateur. Et à l'adorer parce qu'il est digne de notre adoration. Il est le seul qui est digne de notre adoration. Si vous creusez davantage avec Tim Keller, qui a écrit un livre fascinant, je vous encourage à le lire, Les idoles du cœur. Il parle que c'est le seul qui est digne de notre adoration, mais c'est le seul qui est capable de recevoir notre adoration. Quand on adore autre chose, en fait, on finit toujours déçu. Et l'autre chose ne peut pas supporter notre adoration. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez vu mes enfants qui n'ont pas arrêté de tourner ce matin? Mes enfants ne sont pas capables de supporter mon adoration. Et si moi, en tant que père, je mets mon adoration sur eux, je les écrase. J'en mets un poids invivable. Ce n'est pas possible. Dieu est le seul capable de recevoir et de supporter notre adoration. Alors j'aimerais finir avec deux questions pour vous. Puis je vous invite à prendre du temps, juste après, à réfléchir à ces questions. On va prendre un tout petit moment de silence, puis on va prendre le temps pour ces questions. Zaza, tu peux faire un tout petit peu plus calme, Azaya. Azaya, tu peux faire un tout petit peu plus calme. Merci. Merci, princesse. La première des questions, c'est qu'est-ce que c'est que l'adoration pour toi et comment est-ce que tu le vis ? Qu'est-ce que c'est que l'adoration et comment est-ce que toi tu le vis? Puis sois honnête. Au passage, peut-être vous ne me connaissez pas, vous êtes là pour la première fois, personne ne va vous demander vos réponses. Il n'y a pas un test, je ne vais pas vous demander à la fin. Puis si quelqu'un de façon maladroite vous dit « Hey, c'était vraiment intéressant les questions, t'as dit quoi ?» Je te donne officiellement le droit de lui dire « Ça ne te regarde pas. » Mais j'ai trouvé aussi très intéressant. Qu'est-ce que c'est que l'adoration pour toi et comment est-ce que tu vis l'adoration? Et la deuxième question, comment l'adoration te transforme-t-elle ou t'a transformé? Et encore une fois, c'est une question pour toi. C'est-à-dire que peut-être, que, alors que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit, il est en train de te dire, t'adores quelque chose qui ne va pas en ce moment. Puis t'as commencé à être transformé à cause de cette chose-là, à cause de cette adoration mal dirigée. Peut-être que tu es en train d'adorer un projet de vie. Peut-être que tu es en train d'adorer un rêve. Peut-être que tu es en train d'adorer une carrière. Puis à cause de ça, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ce n'est pas très bien, en fait. C'est en train de te transformer. Tu n'es plus celui ou celle que j'avais sur mon cœur depuis le départ. Et laisse le Saint-Esprit te parler par rapport à ça. Ne botte pas en touche. Je m'adresse peut-être ici tout spécialement à ceux qui ne se revendiquent pas chrétiens. Ne pense pas que parce que tu n'es pas chrétien, tu n'adores pas. L'adoration, c'est ce vers quoi on incline nos cœurs, nos êtres tout entiers. C'est ce qui donne du sens à notre vie. C'est la chose dans laquelle on se confie pour avoir le bonheur. Qu'est-ce que toi tu adores? Et comment cette adoration t'a transformé? Et on va, pour accompagner ce temps de réflexion, on va vivre un temps de Sainte-Cène. On va vivre un temps de Sainte-Cène et la Sainte-Cène, c'est littéralement une marque, une forme d'adoration. La Sainte Cène, ça a été introduit par Jésus lui-même, qui a dit à ses amis, prenez ce pain, prenez ce vin qui représente, qui symbolise, qui est une manifestation de mon corps qui est donné pour vous, et mon sang qui va couler pour vous. Il leur dit, et continuez à le faire en mémoire de moi. Faites-le régulièrement pour vous rappeler mon sacrifice. Pour vous rappeler aussi mon alliance avec vous. Pour vous rappeler que j'ai envie de cheminer avec toi. Puis il y a plein de formes, plein de façons de prendre la Sainte Cène. Mais ce matin, ce que j'ai à cœur, c'est qu'on puisse prendre la Sainte Cène seul, chacun, devant Dieu. Alors j'invite les gens à commencer à distribuer. Puis quand vous recevez ces éléments, prenez-les. Prenez les questions qu'on a posées juste avant. Et posez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ton sacrifice à la croix? Est-ce que ma vie t'adore? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer? Puis la seule chose que je vous demande, c'est que si vous ne suivez pas Jésus, si vous n'êtes pas sûr d'aimer Jésus puis de le reconnaître comme votre sauveur et votre Seigneur, abstenez-vous de prendre ces éléments. Les questions sont là pour tout le monde, mais ces éléments, c'est aussi une marque, c'est un symbole fort, c'est une façon de dire Jésus, ce que tu as fait a du sens pour moi. Alors si vous n'êtes pas sûr que ce qu'il a fait a du sens pour vous, laissez passer. Personne ne va vous juger ici, et Dieu non plus ne vous juge pas. Il préfère que vous soyez à 100% dans vos décisions plutôt que de faire juste pour faire. Ne sentez aucune pression de la part du groupe, aucune pression de la part de vos voisins. Si vous le prenez, c'est parce que ça, la vie de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection font du sens pour vous. Que ces éléments arrivent gentiment dans les mains de chacun. J'aimerais simplement vous laisser un peu de temps avec la discussion, avec tout ce qu'on a partagé ce matin. Et que ça puisse à quelque part être une réponse à ce message, cette prise de Sainte Cène. Puis après on va répondre tous ensemble en louant Dieu. En louant Dieu par nos mots, par nos chants, par nos postures de corps, en levant les mains, on va louer Dieu après tous ensemble encore. Mais prenons d'abord ce moment et que le Seigneur vous bénisse.
Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglisome.com.